Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en live et c'est effectivement ce 28e épisode de Chromebook on Live marque mon retour en direct, en tout cas notre retour à nous tous. Donc bienvenue du coup pour ce 28e épisode de Chromebook on Live, l'émission francophone référence autour de l'écosystème Chrome OS, autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Il y a plein de qualificatifs qu'on pourrait y ajouter. Il y a aussi la bonne humeur, il y a les échanges, etc. entre passionnés, je dirais. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Depuis, si je ne m'abuse, septembre 2023, hein, c'est bon, y a pas mal de raisons à cela et j'y reviendrai peut-être un peu un tout petit peu plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'émission, eh bien c'est une capsule de veille technologique autour des actualités Chromebook, Chrome OS condensée en disons une heure de temps, suivi ensuite de quelques minutes où on parle de tout et de rien, de technologie, de nouveautés qui ne concernent pas forcément Google. Hein, il n'y a pas, je dirais, d'extrémisme à ce niveau-là, au niveau des technologies, même si certains d'entre nous sont fanboys de Google et d'autres fanboys d'Apple, mais ça, on y reviendra aussi peut-être plus tard. Si vous intervenez dans les commentaires, comme vous le savez, c'est un direct, c'est un chat, un qu'on voit, qu'on retrouve effectivement sur Twitch ou bien sur YouTube. Donc évidemment, la bienveillance est de mise. Hein. Dans tous les cas, je vois, si je ne dis pas de bêtises, bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Michel, Romain aussi, qui sont présents, nos modérateurs favoris, qui sont là pour vous tirer les oreilles, effectivement, si ça déborde, mais on n'a jamais eu de problème depuis le démarrage de cette émission, maintenant qui date d'il y a plus de 2 ans. Hein. N'hésitez pas à me recadrer au niveau de cette information, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. Et alors cette émission évidemment, donc elle est en direct, vous pourrez la retrouver évidemment en replay sur YouTube, mais également au format podcast, sur les plateformes de podcast traditionnelles, Google Podcast. Alors quoi que Google Podcast va bientôt disparaître, si je ne m'abuse, et je crois qu'effectivement c'est déporté directement sur YouTube. Bien sûr, YouTube Musique, je ne sais plus. J'ai plus d'informations claires, mais en tout cas, vous allez retrouver au format audio cette émission. Et pour ceux qui ne me connaissent pas plus largement, eh bien, je suis le fondateur de Chromebook Live, donc qui est un blog dédié au Chromebook, à la chaîne YouTube que vous voyez en ce moment, et également de la société Blicom, qui est une société de services vraiment spécialisée sur les Chromebooks. Hein. Pour le coup, c'est pour moi une grande aventure qui permet de mêler passion et travail, donc avoir un peu le sourire au quotidien, et c'est ce qui justifie aussi ce temps d'absence en live. Alors c'est pas la seule raison, mais il y en a une autre évidemment. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir une deuxième fille, un deuxième enfant, donc qui fait que c'est difficile de s'adapter par rapport au rythme des lives, surtout des enfants. Encore une fois, c'est une question de priorisation, et c'est évidemment un plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de live, est-ce que ça vous plairait ou ça vous dérangerait si on le poussait entre midi et 14h. Hein. Entre midi et 14h, ce qui serait effectivement, moi, le meilleur moment de diffuser du contenu sans forcément avoir ces contraintes personnelles qui puissent finalement intervenir dessus, ou vous préférez effectivement ce moment chill après dîner pour ceux qui ont déjà dîné. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos avis là-dessus. Et quoi d'autre ? Et évidemment, si vous souhaitez un peu me supporter dans toute cette aventure, hein, encore une fois, c'est beaucoup de bénévolat, de la passion, etc. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo que vous êtes en train de regarder et plus largement, vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live. Vous activez la cloche des notifications, elle vous permet bien entendu d'avoir des notifications dès qu'un nouveau contenu est publié sur la chaîne. Donc beaucoup de focus, un gros focus sur Chromebook évidemment sur la chaîne et plus largement sur d'autres technologies quand j'ai un peu le temps, sur des tests de matériel en l'occurrence. Et faut pas hésiter à même pour les lives, hein, si vous êtes en fait abonné à la chaîne, hein, y a pas de souscription, mais abonnement plus la notification, vous la recevez dès qu'il y a un live qui est en cours d'organisation. Donc je crois que c'est 30 minutes avant le démarrage du live et au moment du démarrage du live. Écoutez, Comment allez-vous de votre côté, hein? Je passe le bonsoir un peu à tout le monde, hein? Jérôme, à Didier, à Jean-Michel, bien entendu. Fred, c'est ton premier live de 2024. Oui, c'est mon premier live de 2024 et on est en avril. Oui. Salut Romain, Alphazila, salut également, je reconnais évidemment des noms, Hervé Drey, bonsoir à toi, Olivier aussi, félicitations, merci les amis, parce que c'est pas mal de responsabilité et de temps, toi aussi Nocturne, tu préfères, écoute on va essayer de voir, je vais essayer de m'organiser au mieux pour pouvoir, moi je préfère le soir. C'est un moment un peu plus chill. Après, c'est vrai qu'entre midi et deux, j'aurais tendance à vous dire que je suis plus en forme que le soir, tout en sachant que là, ces derniers temps, bah, la météo a eu raison de moi. Donc, je suis malade depuis quelques jours. Vous ne le ressentez pas encore parce que je me suis bien préparé, hein, à ingurgiter du miel et à utiliser des solutions nasales avant le live. Ce qui fait que là, j'arrive à m'exprimer. J'espère juste que d'ici la fin du live, ce sera comme ça. Ben voilà, j'en parle et je commence à tousser. Écoutez, depuis tous ces mois, évidemment, il y a eu plein de nouveautés, plein d'actualités sur la partie Chromebook. Alors, ce live n'est pas destiné à faire un résumé de tous ces mois, mais plutôt de regrouper un peu les news récentes qui m'intéressent particulièrement et que je souhaite vous partager. Évidemment, faut pas hésiter à aller me suivre sur Chromebook Live. Là, on a sorti récemment une newsletter dédiée aux professionnels et ça, c'est via ma société. Mais on compte évidemment faire aussi une newsletter pour les particuliers. C'est un truc que j'aurais dû faire depuis belle lurette parce qu'évidemment, vous n'avez pas tous forcément le réflexe d'aller sur le site. Et puis, je pense que ouais, ça peut être un format intéressant de lecture et de notification sans forcément vous forcer à aller sur le site. En tout cas, je pense que, enfin, je vois, c'est super, vous êtes 23 à être en live, ça fait vraiment plaisir. Ce que je vous propose, c'est de démarrer, évidemment, commencer à traiter un peu des actualités, et je voulais, moi, de mon côté, faire un focus sur les Chromebooks. Hein. Les Chromebooks, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un format mini PC qui embarque du coup Chrome OS et donc c'est généralement des petites boxes que vous allez poser à côté d'un écran, que vous allez greffer en HDMI via le port HDMI et vous allez pouvoir profiter de l'expérience de Chrome OS. Bref, c'est plus pour un usage sédentaire. Alors, il est intéressant de constater que ces derniers temps, on a, alors je ne veux pas dire une recrudescence de Chromebooks, mais des Chromebooks plutôt poussés par les constructeurs pour des usages, comme j'aime bien le dire, kiosk and digital signage, donc à destination plutôt de l'affichage dynamique, hein, vous imaginez entrer en entreprise, dans le hall de l'entreprise, avoir un écran qui projette un contenu institutionnel, comme, je ne sais pas moi, présenter les chiffres de la société, ou bien mettre en avant, je ne sais pas moi, des salariés qui ont réussi à atteindre leur objectif. Et donc, utiliser ces Chromebooks que vous allez greffer à un écran et du coup qui vont propulser le contenu. En général, ça marche, c'est plutôt une triptyque où vous allez avoir le matériel, à savoir l'écran, vous allez avoir la Chromebox et derrière une solution, enfin un éditeur, une solution de gestion de contenu qui va vous permettre de créer et de pousser ce contenu. Et du coup, je pense que dans ce contexte, on a pas mal de constructeurs qui se sont investis sur le sujet. Et évidemment, je pense que vous voyez où je veux en venir. Attendez que je vous dise. Voilà, j'affiche bien les choses parce que ça fait longtemps que j'ai perdu un peu la main. Alors là, les nouveaux Chromebooks Micro, on en a parlé. Hein. On est plutôt à l'heure un peu de la miniaturisation ou plutôt de la réduction de taille de ces Chromebooks. On avait un design assez classique, carré. Notamment je pense à la CTL Chromebox CBX3 que j'ai testé dernièrement, qui est vraiment, enfin encore une fois, qui respecte ce design un peu vraiment stock, hein, assez carré et lourd depuis déjà quelques années. Lenovo a innové, alors innové non, parce qu'on avait effectivement des Chromebytes, mais bon, au niveau des Chromebox, c'est une certaine innovation où effectivement on arrive avec un matériel qui fait la taille d'un smartphone. Donc moi typiquement là j'ai le Galaxy Z Fold 5 et on arrive à une taille quasi similaire, sachant que lui il est assez imposant, donc avec des connectiques suffisantes pour faire du coup de la projection de contenu sur un écran. Et on a évidemment d'autres modèles une Chromebox qui vient de chez Acer, on va le voir un peu plus tard, et de chez Open aussi, mais dans cette dénomination un peu de micro et de mini. Alors pour le moment, il n'y a que Lenovo qui propose cette, je dirais, ce design micro. Et alors, une news qui est assez fraîche d'il y a quelques jours, eh bien c'est la mise à disposition, enfin la disponibilité sur le marché. Alors là, en l'occurrence, c'est le marché américain sur le site CDW qui, je crois, est un revendeur américain, donc vraiment pour les professionnels, si je ne m'abuse. Eh bien, le produit, alors déjà, est en rupture de stock, mais est affiché au prix de $250 environ. Donc, vous allez avoir de l'Intel Celeron N4500 avec 8 Go de RAM. Et alors ensuite, bon, les 32 Go de RAM, enfin limite ça, on n'en parle pas plus que ça parce qu'effectivement, on n'a pas besoin, dans le cadre d'affichage dynamique, d'avoir tant d'espace de stockage. La puissance peut être discutable au niveau, en tout cas, du processeur parce que on peut être amené à afficher des contenus peut-être importants qui demandent beaucoup de ressources graphiques ou autres, mais on a un prix à 250€. Et si ce produit était amené à sortir pour le grand public, ça pourrait être effectivement une solution intéressante, en tout cas en termes de, enfin, en termes de coût. En premier prix à $250, c'est vrai que c'est pas très coûteux. Alors là, je vous parle de CDW, j'imagine qu'en France, alors j'ai pas enquêté, j'ai pas regardé plus que ça, on devrait pouvoir la retrouver en ce moment chez des revendeurs spécialisés et encore une fois des revendeurs professionnels. Donc vraiment la Lenovo Chromebox Micro, c'est la première à avoir annoncé ce côté un peu réducteur en termes de taille. On a Acer ensuite, alors je me suis déplacé à l'ISE 2024, hein, c'est un grand salon autour de l'audiovisuel, faudra pas hésiter à regarder hein, mes vidéos sur YouTube, j'ai fait un petit concentré de news là-dessus et j'ai pris évidemment un peu en main là, les nouveaux Chromebox Micro, et c'est à ce moment-là où effectivement Google, enfin ou plutôt Acer, a annoncé la Acer Chromebox Mini, qui contrairement à la Micro, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Mini, n'est pas si réduite. Alors par rapport à une Chromebox classique, encore une fois, très carrée, alors attendez, je vais essayer de voir si je peux, je l'ai débranché complètement, ça, c'est celle de CTL. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est très carré, c'est plutôt lourd, hein, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est assez imposant en termes de design. Là, on a quelque chose qui est réduit apparemment en hauteur et en profondeur. On va avoir des connectiques, disons, peut-être un peu plus généreuses que ce qu'on a sur la Lenovo Chromebox Micro, mais là où on va avoir une différence importante pour, je dirais, les clients, les entreprises, etc., c'est qu'on va avoir une loge Kensington pour pouvoir protéger le matériel et éviter, évidemment, les vols, ce qui n'est pas le cas sur la micro et ce qui, je pense, est effectivement pas problématique pour les entreprises. Et plus récemment, eh bien, Open a annoncé sa Chromebox Mini 2 qui, elle, par contre, arbore... Alors, j'ai fait, pour le coup, le calcul au niveau des dimensions parce que j'ai les informations. On va avoir effectivement cette réduction en hauteur et en profondeur par rapport à la CTL Chromebox CBX3. Mais par contre, on va être sur un design, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt... qui est très industriel, qui est très centre commerciaux. Donc, des antennes en add-on pour pouvoir, en fait, capter encore mieux le Wi-Fi. Les connectiques sont plus généreuses, hein. Que tout ce qu'on a vu, parce qu'on a effectivement un port USB type A, je crois, supplémentaire à l'arrière. Bref, là, on a une machine, on va dire une machine de guerre pour pouvoir survivre dans des conditions un peu extrêmes. Hein. C'est pour ça que ça respecte effectivement la norme militaire STD810H. Et on va être sur de l'aluminium et sur du métal. Vraiment, cette notion de durabilité pour pouvoir survivre dans des conditions extrêmes. Donc vraiment, il y a eu ces derniers temps, il y a ce focus qui a l'air d'être stratégique effectivement pour Google de proposer en fait des appareils sous Chrome OS sur cette partie affichage dynamique. Et moi, j'ai fait des tests du coup dans le cadre de ma société. Il y a eu des tests qui ont été faits chez des clients et c'est vrai que c'est très simple. C'est vraiment très simple à mettre en place et ça se fait vraiment en quelques minutes. Donc on se rend compte qu'avec un coût vraiment... pas très élevé déjà au niveau du matériel, un coût de licence qui reste, je pense, pas très élevé non plus, ou en tout cas correct, et derrière une mise en place rapide, ça pourrait intéresser beaucoup de clients et donc devenir une sorte de cheval de Troie pour Google pour ensuite se dire, ah bah tiens, on va vendre des Chromebooks ou d'autres choses. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. de ces Chromebooks. Est-ce que c'est des choses, malgré le fait qu'elles soient disponibles, en fait, je pense qu'elles ont été vraiment prévues, encore une fois, pour le monde professionnel. Est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser et à ce que finalement, vous pourriez les positionner sur votre bureau, les connecter à votre écran 49 pouces ou je ne sais pas. Mais bref, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je regarde un peu les commentaires en même temps. Je suis Team Soir, pas beaucoup de temps entre midi et 14h par rapport au boulot. Bastien, salut à toi, salut Philippe, salut Luc. Hello Dominique, ça fait un bail aussi. Bonsoir Irae. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur cette partie Chromebox. Autre news intéressante, mais en même temps, toutes ces news sont intéressantes hein, si je les présente. C'est que je porte de l'intérêt à cela. C'est CTL. Hein, CTL, on en parlait tout à l'heure avec sa Chromebox CBX3. Eh bien, il lance un programme de Chromebook reconditionné. Et j'ai trouvé ça plutôt innovant en termes d'approche, hein, tout en sachant que ça vient en fait du constructeur. Le principe, il est vraiment très simple. Vous imaginez finalement être un client de CTL, vous avez un matériel défectueux, vous avez cassé un matériel, vous l'avez endommagé, bref, il n'est plus vraiment opérationnel au quotidien. Eh bien, CTL va récupérer le matériel, va vous l'échanger contre un matériel neuf, hein, évidemment, je pense que vous devrez payer pour le nouveau matériel, et va ensuite réparer le cassé pour le mettre en fait finalement à la vente, hein, lui donner entre guillemets une seconde vie, le proposer à la revente. Donc dans un contexte où effectivement on parle de plus en plus d'éco-responsabilité, l'éco-responsabilité vraiment en vogue dans les entreprises, on est de plus en plus exigeant, on souhaite avoir du matériel durable, et je crois même, si je ne m'abuse, et vous n'hésitez pas à me confirmer ou à m'infirmer, mais que même dans les entreprises, certaines sociétés cherchent même à avoir un pourcentage de matériel recyclé dans leur parc informatique. Ou lorsqu'ils font des appels d'offres, de se dire, bah tiens, 10% vont être alloués à du matériel recyclé, débrouillez-vous à m'en fournir. Bref, ça rentre clairement là-dedans. Donc, on va avoir des gains environnementaux et évidemment des gains financiers, parce que c'était elle derrière lui. Alors, dans le processus, comme il le précise, hein, parce que c'est intéressant de voir ça aussi, le reconditionnement, c'est un processus en 5 étapes où ils vont faire de l'inspection visuelle et mécanique de l'appareil, ils vont faire des tests au niveau de la batterie, des connectiques, du clavier, ils vont procéder du coup aux réparations, ensuite mettre à jour l'OS, et je pense qu'ils entendent par hardware vraiment peut-être devoir changer une pièce si c'est nécessaire, et ensuite faire des finitions, à savoir le rafraîchir, le nettoyer, et fresh labeling comme ils appellent, ça veut dire mettre en fait un, j'ai oublié le terme, mais ce qu'on va appeler un libellé, une sorte d'asset ID pour l'entreprise à qui ça pourrait être destiné. Et du coup, il propose quand même, donc après une réparation, on parle de prix de départ de $99 pour les Chromebooks. Alors, je ne pense pas qu'on va être sur la bête de course, mais en tout cas, on va être certainement peut-être sur un moyen de gamme qui a été réparé et qui va avoir forcément un prix réduit parce que ça bascule entre guillemets en seconde main réparée, mise à niveau. Donc, j'ai trouvé cette approche vraiment intéressante. Elle vient encore une fois du constructeur. Le constructeur, lui, connaît son matériel, donc lui va être en capacité, pour le coup, d'optimiser sa réparation. Encore une fois, sur le principe, hein, ça ne veut pas dire que ceux qui font de la réparation en dehors du fait qu'ils ne soient pas constructeurs ne sachent pas faire ces choses-là. Mais effectivement, ils connaissent leurs produits, comment ils sont conçus, comment tous les éléments sont interconnectés. Bref, il y aura sûrement un gain de temps et un gain d'efficacité, d'optimisation. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il faudrait que tous les constructeurs s'y mettent pour effectivement éviter de faire du gaspillage. Hein, c'est un peu, quand on repense à écologie, notamment dans le monde de Chrome OS, on pense évidemment à Chrome OS Flex qui va permettre de donner une seconde vie au matériel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le constructeur, je ne sais pas si vous vous rappelez, Framework Laptop, qui propose en fait de. Alors là, on est plus dans une notion de durabilité où je crois que c'est facile de démonter le matériel, mais également on va avoir des ports, des connectiques qui vont être modulables. Donc se dire qu'à un moment, on va mettre un port USB type C, peut-être que demain, on va pouvoir l'actualiser et donner, je sais pas moi, un port USB type C de dernière génération, le remplacer selon évidemment l'acceptation de la board, enfin de la carte mère. Donc voilà pour cette news autour de CTL que je trouvais plutôt intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça pourrait m'intéresser pour faire un setup super épuré. Il faudrait un peu plus de puissance pour jouer sur Steam, Romain. Ah bah oui, avec de l'Intel Celeron, effectivement, ça risque d'être difficile sur de la micro. Mais il faudrait voir effectivement s'il pourrait proposer d'autres choses. Mais j'ai un gros doute hein, sur une future disponibilité pour le grand public. Hein. Ce serait déjà un pari pour les marques. Ce serait très niche parce qu'en fait, entre nous tous, il y en aurait certains qui achèteraient. Mais bon, ça reste peu pour faire de la revente, je pense, plus large. Donc. Plutôt Chromebook, mais en entreprise, ça peut être sympa, Bastien, pour afficher des KPI, etc. Tout à fait. Ouais, totalement. Pour faire du dashboarding, donc dashboard de KPI, donc de métriques, de statistiques. De statistiques, donc je pense qu'il y a effectivement un intérêt. Ou en mode stick, comme la Fire TV, eh bien, David, ça c'est. Il y avait ce qu'on appelait les Chromebytes, les Chromebits, qui étaient effectivement des dongles HDMI qui embarquaient Chrome OS. Donc ça a été arrêté. Il y a maintenant quand même pas mal de temps. Je dois en avoir une quelque part. Je l'ai jamais. Pour le coup, ça pourrait être marrant de la retester, mais bon, vous imaginez bien que la mise à jour de Chrome OS n'est plus applicable sur ce genre de modèle. Mais ce serait marrant de faire entre guillemets un petit peu d'histoire sur le sujet. Ce qui serait bien aussi, ce serait j'aimerais bien faire me procurer des anciens Chromebooks made by Google. Donc des Pixelbook de première génération et de pouvoir en faire entre guillemets des tests parce qu'il y a vraiment de jolis Chromebooks venant de Google. Alors déjà le Pixelbook Go, moi je l'adore, enfin il est super beau, mais les anciens aussi ont l'air de. Enfin, ils ont réussi à se différencier par rapport à ce que proposent effectivement les constructeurs classiques. Avec la durabilité des Chromebooks, j'ai du mal à cerner la notion de reconditionner. En fait, Bastien, la durabilité du Chromebook, elle va se situer au niveau de l'OS. Donc ça, c'est super cool dans le sens où, effectivement, l'OS va avoir une garantie de mise à jour sur 10 ans. Mais ensuite, le matériel, lui, bah, selon la qualité, je dirais, des matériaux proposés par les constructeurs ou de l'usage, finalement, que peuvent en avoir les utilisateurs, la maltraitance, on va dire, des ordinateurs, t'imagines, en école, hein, où les enfants, admettons qu'ils aient effectivement un laptop entre les mains, le fassent tomber. C'est pour ça que, notamment, dans l'éducation, on va avoir des Chromebooks endurcis, renforcés. Effectivement, ça peut être effectivement. Enfin, du coup, le principe de reconditionnement, il est toujours intéressant. Si en plus, encore une fois, le modèle, enfin, il lui reste quand même encore pas mal de garanties de mise à jour au niveau de l'OS. Faudrait faire des Chromebooks qui soient plus facilement réparables pour le consommateur ou qui laissent plus la possibilité de changer la RAM ou SSD. Oui, totalement, Romain. Et je pense que c'est ce que propose Framework Laptop, hein, où tu as la main sur la réparation, tu as deux, trois vis, hop, tu démontes le châssis grossièrement, et après, il faut voir si c'est très simple à faire pour remplacer les RAM. Moi, je sais que sur une ancienne CTL, j'avais fait une vidéo là-dessus, je crois que je l'ai facilement démontée, et la RAM, enfin, tu la déclipses et tu la clipses, quoi. Enfin, il n'y a pas. C'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Si les mises à jour sont toujours d'actualité, ça peut valoir le coup totalement, Dominique. Bah, du coup, ça rejoint ce que je viens de dire. Moi, j'ai un vieux PC sous Windows 10 qui rame beaucoup, donc tu penses que c'est bon? Bah, Toveg, en fait, il faudrait voir si tu penses à Chrome OS Flex. Faudrait que tu vérifies peut-être le nom du modèle. Après, encore une fois, ça t'est risques et périls. Faut vérifier. Ça peut peut-être condamner ton PC si vraiment l'architecture est complexe, mais faudrait voir Toveg. Le problème de Framework, c'est qu'ils ne vendent pas de modèles compatibles Chrome OS en Europe, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est uniquement sur le marché nord-américain de mémoire. Et c'est bien dommage. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'ils considèrent qu'il n'y a pas encore de business. Hein. Le Chromebook reste très très niche. Alors, en France, en l'occurrence en France. Perso, je regarde pour mon prochain Chromebook, mais je souhaite un Chromebook avec pavé numérique, écran tactile, écran mat et empreinte dure à dégoter. Tout ce que tu m'as dit, je pense que c'est trouvable. L'empreinte en plus, c'est peut-être un peu le truc un peu compliqué parce que l'empreinte digitale, je pense que c'est plus dédié au monde de l'entreprise, je pense. Voilà, bah voilà, Toveg, Jean-Michel, te dit effectivement, tu as des caractéristiques techniques minimales à respecter. Mais là aussi, hein, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésite pas à regarder pour continuer la mise à jour. Alors, Didier, on n'est pas encore sûr de comment va fonctionner la crosse. Donc, je ne m'avancerai pas là-dessus en garantissant encore une fois une mise à jour du navigateur. Mise à jour du navigateur ne, malheureusement, va pas assurer la mise à jour des composants si on retrouve des failles de sécurité, pour le coup physique. Hein, est-ce qu'ils seront à même de pouvoir en fait modifier ou mettre à jour ce genre de choses? Didier, bah, je laisse la communauté te répondre. Didier qui se pose la question de changer de PC et de se dire est-ce qu'on y bascule sur un Chromebook ou reste sur PC par rapport à l'espace de de stockage, n'hésitez pas à l'aider. Moi, je vous propose juste de continuer encore sur les actualités. Et si vous voulez, hein, en post-émission, on pourra peut-être répondre aux différentes questions. Autre sujet intéressant, alors qui reste pour le coup sur la partie hardware, eh bien, c'est Logitech qui a sorti il y a quand même pas mal de temps de cela un accessoire qui s'appelle le Casa Pop-Up Desk. Okay. Donc moi j'ai appelé ça un kit de travail compatible Chromebook parce qu'effectivement apparemment enfin officiellement c'est compatible Chrome OS mais là aussi j'ai trouvé le principe hyper sympa. Donc vous allez avoir entre guillemets cet objet en fait c'est un conteneur qui en fait qui ressemble vraiment à un livre qui ressemble vraiment à un livre et qui va permettre de concentrer plusieurs éléments donc à savoir le clavier. Le pavé tactile et lui permettra également d'être utilisé comme support pour remonter votre appareil, du coup votre Chromebook en l'occurrence. Sachant qu'il y a aussi, je crois, un compartiment dédié à pouvoir stocker, je sais pas, un stylo ou un mini bloc-notes, etc. Donc, enfin, je préfère à la limite vous montrer la vidéo. Je sais pas si vous la voyez, si vous la voyez normalement. Et en fait, voilà, j'ai trouvé ça hyper original, tout en sachant qu'encore une fois, que c'est un tout, c'est un kit, donc vous allez pouvoir facilement le transporter. Hein. Vous imaginez avoir votre Chromebook plus ça à côté. Bon, après, peut-être que ce sera, je pense pas que ce soit si lourd que ça. Et là, l'intérêt, c'est cette partie évidemment mobilité. Hein. Au sein de votre domicile, vous avez peut-être effectivement votre bureau pour travailler avec votre Chromebook ou votre ordinateur sous Windows. Là, vous imaginez pouvoir basculer, je sais pas moi, sur le plan de travail de votre cuisine pour travailler. Au moins, vous avez cette partie desk qui va vous permettre de remonter le Chromebook et de vous sentir effectivement comme dans un vrai environnement de travail un peu cocooné pour pouvoir bien travailler. Par contre, moi, je me pose toujours la question du pavé tactile externe. Je suis un grand utilisateur de souris, hein, même sur Chromebook, parce que avec la souris, on fait mieux les choses, je trouve. On se fatigue moins. Vous imaginez faire un peu de Photoshop, alors pas forcément du Photoshop, mais du traitement d'image, du traitement d'image avec le pavé tactile du Chromebook. C'est voilà, c'est très vite fatigant. Donc je ne sais pas ce que ça vaut d'avoir un pavé tactile externe, quoi. Enfin, c'est déporté. C'est finalement revenir au même principe. Donc quel est l'intérêt peut-être d'avoir un pavé tactile large? Alors non, là l'intérêt, effectivement, pardonnez-moi. L'intérêt dans le cadre de cet accessoire, c'est qu'effectivement, l'ordinateur, lui, il est en retrait, il est remonté, donc on ne peut pas atteindre le pavé tactile. Maintenant, la différence entre prendre un pavé tactile ou bien la souris ou le proposer dans ce pack-là. Eh bien, c'est une grande question. Est-ce que vous, typiquement, déjà ce produit, est-ce que ça vous plairait? Moi, je le trouve super, super innovant, super sympa. Et derrière, par contre, est-ce que du coup, le pavé tactile, parce que ça, c'est ma question à moi, eh bien, est-ce que c'est quelque chose qui vous botterait? Ah, clavier tactile, pardon, pavé tactile déporté. J'entends. Non, Dominique, pas vendu en France. C'est encore une fois, c'est pour le coup dommage. C'est toujours aux États-Unis, hein, marché prioritaire. Tout en sachant qu'encore une fois, c'est même pas vraiment dédié à Chrome OS. C'est même pas dédié au Chromebook, hein, dans l'absolu. Ah oui, ok, bon, bah, environ 250 $, à savoir le prix d'une Chromebox micro. Hein? Donc voilà en tout cas pour cette partie, je dirais news hardware, comme j'aime bien appeler. Là, ça va être la petite pause publicité. Encore une fois, comme vous savez, voilà, je le fais tout ce que je fais là, que vous voyez, enfin les différents articles sur le blog ou bien les publications sur YouTube, eh bien je le fais par passion, de manière vraiment, enfin ça me plaît évidemment de faire ça, sinon j'aurais arrêté depuis belle lurette. Mais voilà, si vous souhaitez me supporter un peu dans toute cette aventure très large, eh bien faut pas hésiter à partager mes différents contenus. Hein. On est présent sur Twitter, enfin X, sur Instagram, sur TikTok également, donc faut pas hésiter à nous suivre en vous abonnant aux différents fils d'actualité, aux différents réseaux sociaux, à partager évidemment les contenus et encore une fois à liker par exemple cette vidéo sur laquelle vous êtes. Alors je vois pas le compteur de like de mon côté, donc je peux pas vous dire si vous avez liké, mais voilà, faites un petit like, mettez des pouces en l'air dans le chat, ça fait toujours plaisir de voir effectivement un peu d'engouement, mais déjà que vous soyez autant sur le live, ça me fait évidemment plaisir. Ça me fait évidemment plaisir et ça me motive à continuer. Voilà, c'était un peu l'objectif de cette émission, hein, se faire un petit bilan tous les mois. Depuis, ces 7 derniers mois, il n'y a pas eu grand-chose, mais c'est pour ça qu'on revient. On revient en force, on revient en force. On revient en force et on revient en force avec d'autres nouveautés maintenant concernant Chrome OS et évidemment une des nouveautés qui était quand même bien attendue, c'est la partie intelligence artificielle, les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui se préparent sur les Chromebooks. Alors, pas sur les Chromebooks, plus exactement sur les Chromebook Plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la sortie des Chromebook Plus, Google parlait effectivement de fonctionnalités exclusives. Donc effectivement, on a la zone de gestion de caméra et du micro qui ont été intégrées, la possibilité d'effacer des éléments dans Google Photos, et d'autres fonctionnalités. Ils avaient effectivement teasé cette partie fonctionnalité IA, mais ils en ont parlé déjà depuis 6 mois et on n'a pas eu de nouvelles sur le sujet, sauf que mes confrères de Chrome Unboxed, à savoir le média américain vraiment référence sur le sujet, ont pu obtenir une vidéo de démonstration d'un Googler. Donc un Googler, hein, c'est quelqu'un qui travaille chez Google, qui leur a montré 3 principales fonctionnalités d'IA qui vont être intégrées au Chromebook Plus. Alors déjà, donc du coup, eux ont fait ensuite le découpage en 3 petites vidéos. Donc c'est des choses auxquelles on avait déjà parlé, enfin on avait déjà vu effectivement la partie Help Me Write, c'est-à-dire que c'est en fait un outil qui va vous permettre de vous aider, à rédiger du contenu. Donc là, dans notre exemple, si vous voyez bien l'écran, on a l'utilisateur qui va ajouter une review, un commentaire sur le site Amazon, sur une fiche de produit. Donc il commence à rédiger son prompt en demandant notamment, si je ne dis pas de bêtises, de lui rédiger un commentaire, enfin une review, donc un test concernant un écran. Et regardez la magie. Donc il a fait un clic droit, il a dû faire un Help Me Write, choisit l'option Help Me Write, et regardez. Donc l'intelligence artificielle qui commence à réfléchir et qui va lui exposer un contenu. Et il peut choisir, je crois, parmi plusieurs propositions, si je ne dis pas de bêtises. On attend juste de voir ce que ça donne. Mais effectivement, donc c'est une zone dédiée. Vous rédigez votre prompt et là, vous pouvez ensuite, il y a plusieurs autres options. Vous pouvez refine, à savoir lui redemander de refaire un set, je crois, de réponses. Je pense que vous allez pouvoir lui demander aussi de réduire le texte, il y aura d'autres options qu'on ne voit pas exactement, mais désolé, mais voilà, on a cette nouvelle fonctionnalité Help Me Write qui est censée, je crois, exister via Gemini sur Google Workspace, on l'aura déjà intégré sur Chrome OS. Là, vous le voyez sur LinkedIn, il peut demander de rephraser la phrase ou bien de donner plus d'éléments sur un contenu, donc de le développer, de le rendre plus exhaustif. Donc ça, c'est une des premières choses qui est vraiment pour le coup intéressante. On a la génération d'arrière-plan pour la caméra. Alors là, je vous en parlais tout à l'heure, mais une des nouveautés, c'est cette zone qui vous permet de gérer le flux vidéo, peu importe sur quelle plateforme de streaming, là c'est vraiment le flux vidéo et audio qui est généré par le Chromebook. Donc si vous êtes sur une conférence Zoom ou Meet, eh bien vous allez hériter de la configuration que vous avez poussée sur votre Chromebook. Et là, en gros, vous allez être guidé, choisir un ensemble de mots liés à une expression pour générer eh bien, des arrière-plans. Et donc là, alors attendez, Distressed IT Café. Alors attendez, donc là, si vous regardez, il est guidé, donc il peut choisir, je vois pas très bien en fait, mais l'extérieur, quelque chose de moderne, sachant qu'au départ, alors je vois qu'il a sélectionné café ici, attendez. Alors, il peut faire un Inspire Me, donc j'imagine qu'en gros, ils vont lui proposer déjà des arrière-plans ou une préconfiguration de phrases, il n'aura plus qu'à générer, alors qu'ici, en fait, il l'a créé automatiquement, ce qui fait qu'en gros, vous allez avoir des arrière-plans qui vont être infinis en termes de personnalisation, et je trouve ça, pour le coup, vraiment intéressant. Et dernière chose, là, on a parlé de la génération d'arrière-plans pour la caméra, et bien, on va avoir la même chose pour le bureau, donc le fond d'écran de votre Chromebook, un peu dans la même veine en termes de création d'arrière-plan, ou en tout cas de processus de création, mais avec plutôt des paysages. Donc là, il demande a painting of a mountain, donc une peinture d'une montagne dans un style réaliste. Et donc, regardez la génération de tout ça. Et voilà, il a le choix entre différents fonds d'écran. Et donc, encore une fois, ça signifie qu'on va pouvoir être vraiment sur des choses vraiment infinies en termes de création de contenu, de personnalisation. Vous imaginez pouvoir générer chaque jour quelque chose de nouveau. Et vraiment, pour le coup, là, les résultats sont assez convaincants, même si je trouve que Gemini n'est pas forcément des meilleurs en termes de création, de génération d'images. Mais voilà où on en est. Alors, la question que je me pose aussi là-dessus, c'est est-ce que tout est généré au niveau de la machine ? Est-ce que c'est vraiment généré au niveau de la machine ? Parce que dans l'absolu, les Chromebook Plus, excepté avoir des processeurs, on va dire classiques, n'ont pas de puces qui permettent de booster toute la partie AI. Est-ce que du coup tout ça serait pas généré en fait directement via Internet ? Donc il vous faut une connexion à vérifier. Hein. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Je suis pas le spécialiste technique. Mais que finalement, en fait, ces fonctionnalités d'IA auraient pu fonctionner sur des Chromebooks qui ne sont pas forcément des Chromebook Plus, mais c'était l'occasion, effectivement, de créer des fonctionnalités exclusives et donc vendre, entre guillemets, plus facilement ces Chromebook Plus. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu mon avis. Hein, n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire. Désolé, encore une fois, je suis malade depuis quelques jours. C'est un peu compliqué. Vous pensez que... Je regarde un peu vos commentaires. Vous pensez que GeForce Now est une bonne alternative ? Oui, GeForce Now est une très bonne alternative. Si on regarde les vidéos un peu que j'ai pu faire, j'ai testé notamment Call of Duty Warzone, avec mon niveau à moi, mais qui n'est pas forcément des meilleurs. Tu pourras te faire un avis, tu vois. Enfin, typiquement, GeForce Now a reçu la licence Call of Duty. Et je trouve ça super intéressant. Par contre, encore une fois... si tu es un joueur professionnel et tu es à cheval sur des réponses en millisecondes, évidemment, hein, rien ne vaut une exécution en local. Perso, sur mon Chromebook, j'utilise plus une souris filaire que le pavé tactile. Je compte investir pour une souris sans fil. Ah ouais, ok, bon, t'es un peu comme moi, Jérôme, là-dessus alors. Celle-ci, souris Logitech M185 sans fil avec Nano. Ok. J'ai testé Gemini Pro 1.5 via VPN et c'est merveilleux. Ah, ça donne de l'eau à la bouche, Jean-Michel. Faudrait que je teste ça aussi. Hein. C'est payant. Aide-moi à écrire. Est déjà arrivé sur Google Message sur nos Pixel 6, 7, 8. Alors moi, je l'ai reçu effectivement aussi sur le Samsung. Mais c'est le Help Me Write, je pense, de Samsung. Attends, je vais vérifier. On va vérifier un truc. Oui, non. Attends. Ah non, c'est en fait, ce n'est pas uniquement lié au modèle, mais c'est bien, moi j'ai installé Google Message sur le Samsung, et j'hérite effectivement du Help Me Write. Et je peux faire du remix, je peux le faire à la Shakespeare, de manière enthousiaste. Par contre, tout a l'air d'être en anglais. Mais pour le coup, bah, je l'utilise pas vraiment. Encore une fois, je préfère quand j'envoie des messages à des connaissances, je préfère de faire en sorte que ça vienne de moi et enfin entre guillemets la partie authenticité et personnalisation quoi. Exact. Quel Chromebook achèteriez-vous actuellement? Si tu es riche, un Chromebook Dragonfly. Oh putain, le Dragonfly. Le Dragonfly Chromebook, c'est pour moi c'est le high-end, c'est le top, mais bon voilà, c'est un prix autour des 1000 euros. Je sais même pas s'il est actuellement commercialisable, mais après il faut, pour moi je pense Bastien, il faut s'orienter sur des Chromebooks Plus hein, qui restent les derniers devices last génération sur la partie Chromebook. Et bah du coup pour pouvoir profiter aussi de toutes ces fonctionnalités dont on parle, encore une fois c'est pour ça que j'insiste et je pense qu'effectivement Google pousse ces fonctionnalités pour évidemment pour vendre du Chromebook Plus. Savez-vous que l'on peut créer un thème sur Chrome avec l'IA? Oui, j'avais vu ça, je ne l'ai pas fait encore, mais je crois qu'il faut que tu bascules en anglais, enfin tu dois avoir des opérations à faire là-dessus, je pense. Ah oui, il est à 1500 euros. Alors si tu es à 1500 euros, c'est que tu dois avoir, je sais pas moi, de l'i7, tu as peut-être même l'écran de confidentialité intégré, parce que je sais qu'il faisait ça HP. Bastien, je suis joueur de World of Warcraft, apparemment ils ont dataminé que ça arriverait bientôt. Sur quoi? Sur GeForce Now, j'imagine? Ouais, écoute, je pourrais pas te dire exactement, mais ce serait peut-être pas déconnant, encore une fois, s'ils arrivent à s'accaparer des licences comme Call of Duty, qui reste quand même un gros, même si ça se casse la gueule au niveau de Warzone. Moi, j'y crois, hein, ça reste pour moi celui qui est vraiment mis en avant. Microsoft, après, fait sa sauce, tout en sachant qu'en plus, maintenant, Call of Duty... Alors... Pardon. Call of Duty appartient à Microsoft, mais je crois qu'il y a il y a encore des contrats qui permettent effectivement de le proposer à des plateformes de streaming, mais en gros, tu as pour moi deux plateformes de streaming référence, c'est GeForce Now et je crois que c'est Xbox Cloud. Je sais plus quel est le nom. Mais si tu es déjà dans un environnement Microsoft, ça peut peut-être être intéressant de rester sur le Xbox Cloud, mais GeForce Now, ils ont une liste de jeux qui est vraiment pas mal. Et encore une fois, c'est les bibliothèques Steam qui sont compatibles. Parce que je ne crois pas que tu puisses utiliser Steam sur la plateforme de Microsoft. Dragon, en ce moment, on peut avoir un Spin 714 pour 750 euros avec deux réductions différentes sur le site d'Acer. Ah, le Spin 714, ça reste du haut de gamme aussi. Hein. Mais même en design, il est super joli, il est super bien. Moi, j'ai le Spin 713, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, le Spin 713, je l'ai depuis maintenant, je crois, 2 ans. Il est toujours bon, enfin moi je l'adore. En plus, je crois qu'on est sur de l'écran 2K. Là, le 714, je crois, c'est la version, enfin la dernière génération. Tablette Chromebook, ça existe? Oui, notamment chez Lenovo et Asus. Clément. Donc les Lenovo, c'est les IdeaPad Duet. Les IdeaPad Duet, j'en ai pas une là sous la main. Ah bah tiens, Alphazila a répondu. Et tu as, je crois, alors j'ai plus le nom côté Asus, mais tu as un modèle de chez Asus. On va continuer avec les actualités au niveau de l'OS, et notamment avec la Chrome OS, la version Chrome OS 123 qui est sortie maintenant depuis le début de mois. En gros, les nouvelles mises à jour arrivent, je crois, au 3, 4, vraiment en début de mois. Et vient de se propager en fait sur les appareils. Donc il y a eu quelques nouveautés. Moi j'aurais tendance à dire une qui est vraiment intéressante me concernant. Donc déjà vous pouvez personnaliser les raccourcis clavier. Alors sur votre Chromebook vous avez déjà des raccourcis qui étaient prédéfinis et imposés par l'OS. Donc un ensemble de combinaisons de touches qui vont vous permettre de mener une action comme la capture d'écran, même si maintenant, en fait, on a déjà un bouton qui est intégré. Alors, excusez-moi pour cette, c'est vrai que pour cette nouveauté, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle est annoncée comme disponible sur Chrome OS 123, mais il faut quand même activer deux flags, hein, alors qu'on est sur le channel stable, et c'est là où, en fait, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils font ça. Donc, d'annoncer des fonctionnalités, mais finalement, elles ne sont pas vraiment disponibles en tant que telles, il faut paramétrer des choses. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir, en fait, personnaliser ces raccourcis déjà existants. Donc, pourquoi pas ? Moi, j'en vois pas forcément l'intérêt de mon côté, mais globalement, ça marche comment ? Vous allez utiliser ce qu'on appelle une touche modificateur, à savoir CTRL, ALT, SHIFT, soit indépendamment, soit combiné, ou lanceur d'application, plus une touche du clavier pour arriver à exécuter, en fait, une action. Donc, à voir si ça peut être intéressant pour vous. Moi, j'en ai peu d'utilité. Je me suis déjà imprégné des raccourcis existants et ça me va tel quel. Par contre, la personnalisation des touches de la souris, ça, je trouve ça vraiment sympa et plutôt bien fait. Ça veut dire, si vous allez dans les paramètres, en fait, il va détecter évidemment votre souris. Hein. Bon, c'est une souris Bluetooth là, de chez Acer. Si j'appuie sur le bouton de la molette, paf, ça va apparaître automatiquement sur l'interface et je pourrais choisir en fait une action dédiée. Et en l'occurrence, moi maintenant, ce que je fais, c'est que j'associe le bouton de la molette de souris au mode overview. Hein. Vous savez, c'est le mode, c'est le mode où vous affichez l'ensemble des applications actives sur votre bureau. Et donc voilà, je trouve que l'expérience utilisateur, elle est simple, elle est fonctionnelle. Et pour le coup, ça, c'est intéressant. Imaginez que vous ayez une souris, là. Je sais qu'il y en a... Enfin, vous parliez de souris tout à l'heure avec des références de chez Logitech, où vous allez même avoir, je sais pas, vraiment des multiples touches, deux sur le côté, il y a la molette, plus quatre personnalisables, notamment peut-être utilisés pour les gamers ou pour faire des macros. Eh bien là, vous pourriez imaginer automatiquement associer des actions de votre Chromebook, donc faire une capture d'écran. Alors la capture d'écran, ce qui est dommage, c'est que je crois en fait, j'ai essayé de l'appliquer, mais ça ouvre en fait le menu de capture d'écran et ça ne fait pas automatiquement la capture d'écran globale. Autre news relative à Chrome OS 123, c'est le partage de connexion qui est disponible, alors, qui est disponible sur Chrome OS, mais évidemment uniquement pour des modèles de Chromebook qui peuvent accueillir une carte SIM ou certainement qui possèdent déjà de l'eSIM. Et le principe, c'est que vous transformez en fond votre Chromebook comme un point d'accès Wi-Fi. Et donc, des personnes qui pourraient être autour de vous puissent se connecter à Internet au travers de votre Chromebook. Donc, bon, en général, on a souvent notre téléphone portable et on l'utilise comme point d'accès mobile. Hein, moi, ça m'arrive très souvent et pas plus tard que ce week-end. Donc, ça peut être effectivement intéressant dans les cas où vous n'avez pas votre smartphone. En tout cas, ça ne mange pas de pain. Et dernière chose, alors bon, qui reste un peu technique, qui va pas forcément tous nous intéresser, mais maintenant, donc comme vous le savez, hein, sur Chromebook, hein, vous, notamment, enfin pour ceux plutôt qui ne le savent pas, mais sur Chromebook, vous avez effectivement l'accès au Google Play Store, vous pouvez y installer donc du coup des applications Android. Et ce qui est sympa maintenant, alors c'est que vous allez pouvoir changer la langue de l'appli directement au travers de l'interface de paramètres. Alors, dans l'absolu, changer la langue, hein, ce n'est pas le truc le plus sexy. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir finalement modifier la configuration d'une application Android directement à partir des paramètres sans devoir aller dans les menus ou peut-être même certaines fonctionnalités qui ne sont pas atteignables via le menu de l'application Android. Pouvoir se dire, bah, tiens, je modifie ça dans les paramètres, je lui injecte telle information. Donc là, en l'occurrence, moi, j'avais testé, je voulais tester jusqu'au bout pour bien comprendre en fait la fonctionnalité. Là, en l'occurrence, j'avais lancé Express VPN et je choisissais, je passais du français au japonais et vraiment, en fait, instantanément, ça changeait la langue de l'interface de l'application. Donc, c'est comme si finalement, on lui donnait un ordre et récupérait en fait dans un fichier toute la traduction déjà existante au sein même de l'appli. Donc je ne sais pas si on pourrait avoir un exemple plus intéressant demain si en fait ils ouvrent en fait cette configuration, mais c'est voilà, faut imaginer que vous pourriez, je ne sais pas moi, pousser peut-être votre login et votre mot de passe au travers de l'interface de paramétrage au lieu de passer par l'application mobile. J'en sais rien. Je pense à ça, mais j'ai trouvé ça intéressant comme approche. Après cette partie Chrome OS 123, évidemment, vous doutez bien qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont en cours de développement. Et moi, il y en a une que j'attends vraiment avec impatience, parce que je suis un fan invétéré, oui et non, parce que je ne l'utilise pas non plus tout le temps, mais ça m'arrive de l'utiliser. Enfin, j'ai souvent utilisé quand je faisais un peu de développement informatique. Et c'est le Focus Mode by Chrome OS. Alors ça, j'en ai parlé quand ? L'article date de décembre... de décembre, mais bon, c'est pour vous réintroduire un peu cette fonctionnalité, parce qu'il y a eu quelques petites nouveautés qui sont arrivées avec le temps. Mais globalement, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Podomoro, hein, je me trompe à chaque fois, mais je crois que c'est méthode Podomoro. En gros, c'est une méthode qui vous permet de rester concentré sur une tâche bien précise, où pendant 25 minutes, vous allez faire que cette tâche-là. Dès que le temps est écoulé, vous allez basculer sur 5 minutes de repos ou en tout cas d'arrêt de la tâche en question. Donc vous pouvez aller marcher, siroter un café, je commence à boire le café, siroter un café ou bien limite regarder une vidéo YouTube. Hein. Là, on ne vous dit pas d'arrêter le temps d'écran, hein, même si bon, c'est toujours préférable d'arrêter un peu et plutôt aller de marcher. Et ensuite, vous revenez sur une session de 25 minutes. Et je crois que quand vous complétez 5 sessions de 25 minutes, là, vous avez une pause d'une demi-heure. Je ne sais plus exactement. Mais en gros, c'est ce que a souhaité introduire Google au travers de ce nouveau Focus Mode, donc qui est atteignable. Alors là, actuellement, qui est disponible sur le channel Canary lorsque vous activez Cross Focus Mode. À voir si peut-être c'est même accessible sur le channel stable via le flag. Mais globalement, dans les paramètres rapides, vous avez un nouveau bouton, vous appuyez dessus, vous pouvez choisir le timer par défaut qui est de 25 minutes et donc qui fait référence à la méthode Podomoro. Y associer une tâche si vous en avez dans Google Tasks. Alors moi, perso, je n'utilise pas trop Google Tasks. Et vous pouvez choisir aussi de ne pas être dérangé, d'activer le mode ne pas déranger lorsque vous êtes en focus mode. Et ensuite, vous avez une petite bulle qui vient s'insérer sur votre étagère et avec du coup le décompte. Donc, vous pouvez arrêter le focus ou rajouter 10 minutes. Mais bon, idéalement, il faudrait effectivement respecter le temps. Comme ça, vous êtes vraiment focus à fond. Et bref, c'est une fonctionnalité. En tout cas, cette méthode-là, moi, je l'ai appliquée lorsque je faisais un peu de développement. Et c'est super parce que ouais, vous restez focus. Hop, ça vous impose 5 minutes. Vous n'allez pas réfléchir à ça. Vous allez revenir peut-être avec la solution à votre problème. Et c'est... bref, j'ai bien aimé l'utiliser. Je l'attends avec impatience. Et alors, cette fonctionnalité... Eh bien, elle va... moi, je l'utilisais, du coup, cette méthode au travers d'une extension du même nom, je crois, Podomoro, il me semble. Et cette extension, ce que j'adorais, c'est que je pouvais mettre, en fait, un son d'ambiance. Donc, ça pouvait être... Enfin, moi, en général, j'aime bien mettre la pluie. Hein, donc, en fond, t'entends la pluie. Ça donne pas envie, forcément, d'aller aux toilettes. Mais t'entends la pluie, tu peux mettre un feu de camp. Et là, Google va introduire effectivement cette partie Soundscape, qui est un son d'environnement, un son d'ambiance. Donc là, la nature, une zen attitude, de l'ambiance, je ne sais pas ce que c'est exactement, toute la partie classique, c'est peut-être une musique classique de fond. Et vous pourrez aussi, du coup, basculer, j'ai l'impression, sur des playlists appartenant à YouTube Music. Donc si vous avez un compte YouTube Music... Alors, je ne sais pas, ça aussi, c'est intéressant, si c'est forcément lié à un compte YouTube Musique. Mais voilà, avec des catégories, donc du chill, du lofi. Alors, le lofi, ça aussi, j'aime bien. C'est vraiment du... comment on appelle ça ? C'est des musiques lentes, calmes, mais très lentes. Et comment on appelle ça ? Au beat réduit. Enfin, pour le coup, ouais, c'est réduit, oui. Bref, qui te met vraiment en mode focus. Et bref, c'est pour le coup une belle approche. Et l'association, évidemment, avec YouTube Music, c'est quelque chose qui reste évidemment pertinent. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Comment vous travaillez? Quelles sont vos méthodes de travail? Est-ce que, du coup, le Focus Mode pourrait être intéressant pour vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une marque en particulier... GeForce Now, tu payes l'abonnement et t'as accès à tout où il faut encore acheter les jeux. Alors Bastien, en fait, tu payes l'abonnement, mais effectivement, il faut que tu achètes les jeux. Ce qui est... Ah oui, alors ça, c'est une grande différence par rapport à l'offre de Microsoft, le Xbox Cloud, je sais plus comment il s'appelle. Cloud Gaming by Microsoft, où là, tu vas être dans une approche plutôt Netflix, où tu vas payer par mois un accès à un catalogue et tu fais ce que tu veux avec les jeux. Ça peut être intéressant. Moi, je trouve en fait que tu as accédé à un catalogue exhaustif. Moi, j'ai du mal ensuite à me focusser du coup sur un jeu en particulier. Tu as envie de tout tester et en fait, tu perds la valeur du produit. Et donc, tu ne vas pas... je finis très rarement les jeux. Hein. Je suis vraiment là-dessus, je suis pas très bon. Pourquoi ? Parce que, bref, j'y reviens 10 ans après, j'oublie les touches. C'est un peu compliqué. GeForce Now, tu payes un abonnement. Et en plus, tu as une variation au niveau des abonnements. Bon, idéalement, il faut payer le premium si tu veux maximiser, avoir l'optimisation graphique, etc. Et derrière, en fait, tu profites de ton catalogue, de ta bibliothèque Steam, ta bibliothèque, j'ai oublié, Epic Games également. T'en as peut-être d'autres aussi, GOG, je crois, GOG. Donc voilà. Acer Chromebook Spin 714, il n'est pas plus. Alors je pense qu'il doit être plus. Il doit être Chromebook Plus si tu penses à ça. Mais pas sans la dénomination. C'est un peu comme le HP Elite Dragonfly Chromebook que j'ai. Il n'est pas officiellement. Enfin, il n'a pas la dénomination, mais il est compatible officiellement Chromebook Plus. Jérôme Fred, une petite question. J'ai un message qui s'affiche en rouge me disant que certaines applications ne sont pas validées par Google. C'est normal ou pas ? Est-ce que c'est retirable via un reset ? Putain, c'est bizarre ça. Tu parles de quelle ? Est-ce que tu sais de quelle application tu parles ? Enfin, Google, enfin, bref, quelles sont les applications en question ? Ces applications Android ou... Ah ouais, ça reste quand même étonnant. Nicolas, bonsoir, y a-t-il des ultrabooks haut de gamme sous Chrome OS châssis alu? Oui, bah on en parlait tout à l'heure. Bah tiens, l'exemple, Nicolas, le Acer Chromebook Spin 714 qui est vraiment trop très joli. Et si tu veux aller encore plus loin, bah c'est le HP Elite Dragonfly Chromebook, hein, pour moi. Ah bah tiens, Alphazila répondait. Le Game Pass, merci Alphazila. On va continuer avec ce qui nous reste de news. Alors ça, je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément compris l'intérêt de cette fonctionnalité. C'est pour ça que je voulais vous en reparler là-dessus. Donc, toujours sur le channel Canary. Alors, on va réexpliquer, on va donner un peu plus de contexte. Aujourd'hui, lorsque vous êtes sur votre poste Windows, vous ouvrez Chrome, vous avez la possibilité de synchroniser plusieurs profils Chrome au sein du navigateur. Donc, moi, c'est le cas. Moi, c'est le cas. Par exemple, j'ai mon profil d'entreprise, j'ai mon profil personnel, j'ai le profil dans le cadre d'une autre activité et je crois que j'ai même un profil développeur. Bref, j'ai du multi-compte Google. L'intérêt, c'est de pouvoir, au sein d'une même session, ouvrir plusieurs instances de Chrome. Une instance dédiée à mon profil perso, une instance dédiée à mon profil pro. Là, typiquement, je suis sur Windows pour faire cette diffusion, pour faire ce live et j'ai ouvert mon compte perso, mais je peux ouvrir aussi mon compte pro et donc avoir vraiment deux instances de Chrome sur le même écran et gérer mes activités. Sur Chromebook, ce n'est pas possible. Pour arriver à faire ça, il faut en fait créer des sessions Chrome OS, autant de sessions Chrome OS que de comptes. On est d'accord ? Ça veut dire qu'en gros, il faut que je me logue avec mon adresse perso, hop, ça va m'ouvrir la session. Il faut que je me délogue ou que j'ouvre une autre session et je vais pouvoir basculer d'une session à une autre, tout en sachant que ça crée, entre guillemets, des partitions au sein du laptop, enfin au sein de l'ordinateur. Avec Lacrosse qui va arriver, alors je ne sais plus si c'est Didier qui en parlait tout à l'heure, Lacrosse, c'est une séparation du navigateur Chrome avec Chrome OS. Aujourd'hui, sur un Chromebook, tout ça c'est lié. Là, l'idée, l'intérêt de Lacrosse, c'est de se dire, on va pouvoir délier l'ensemble et gérer les mises à jour de manière un peu indépendante et assurer un peu plus de sécurité, mais aussi permettre de gérer plusieurs profils Chrome au sein d'une même session Chrome OS. Je ne sais pas si j'ai été clair, je l'espère, mais en tout cas, moi, j'ai activé Lacrosse déjà depuis pas mal de temps sur différents modèles et je peux bénéficier de cette fonctionnalité, ce qui est génial. C'est-à-dire vraiment, j'ai plusieurs instances de Chrome avec mes différents profils. Et donc, sur ce postulat, sur cette base-là, Google est en train de travailler sur une fonctionnalité. Donc, vous pouvez la débloquer en activant l'activant via le flag Desk Profiles, comme vous pouvez voir sur l'écran. Les profils de bureau ça va permettre d'activer l'association des profils Lacrosse avec le bureau. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, lorsque vous êtes dans un mode overview, eh bien, les miniatures sont accompagnées de vos petites photos de profil qui sont liées à votre compte Chrome, à votre profil Chrome. Alors là, encore une fois, je m'avance peut-être. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Alors là, la fonctionnalité, quand je l'ai testée, moi, je pense qu'elle ne doit pas être complètement encore opérationnelle. Mais l'idée, ce sera de se dire que automatiquement, via les paramètres, vous serez en mesure en fait, de créer un bureau virtuel qui associera directement une instance Chrome. Donc, si j'ouvre une instance Chrome avec mon profil perso et une autre avec mon profil pro, eh bien, je l'associerai directement à des bureaux virtuels. Et donc, l'intérêt dans tout ça, c'est de bien dissocier les activités. Et moi, je trouve que cette approche peut être, pour le coup, vraiment intéressante. Alors, encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit imposée. Il faut qu'on puisse la personnaliser parce que, on n'est pas tous à avoir du multi-compte. Mais moi, ça pourrait être vraiment intéressant pour bien distinguer chacune des activités. Donc, pour ceux, parce que je crois que Didier m'avait posé la question, ou Dominique, je ne sais plus, et je n'avais pas eu le temps, enfin, je n'ai pas pris le temps, malheureusement, de répondre. Est-ce que c'est déjà un peu plus clair ? C'est peut-être un peu chiant, c'est peut-être un peu compliqué, je dirais, peut-être, mais si déjà vous ne l'utilisez pas, vous de votre côté. Hein. Alors, Google ne spécifie pas les applications en question. Mais alors, c'est quoi comme notification, Jérôme, que tu reçois ? Enfin, en fait, ce qui serait bien, c'est que tu envoies un screenshot, mais on ne peut pas... Petite précision, la coque du Dragon est en magnésium, pas en alu, apparemment. Je crois, oui, c'est du magnésium. Mais attends, c'est comment on appelle ça ? C'est du... Non, c'est ça, c'est du magnésium. Donc théoriquement, je crois que c'est plus léger que l'alu. Est-ce que c'est plus résistant ? Mais en tout cas, ça reste un matériau, entre guillemets, plus noble que l'alu. Et c'est ce qui va justifier aussi le prix un peu plus élevé. Dernière news concernant, on va dire, cette partie OS, c'est enfin l'accès du rétroéclairage, de la gestion du rétroéclairage au travers de l'interface graphique de Chrome OS. Alors bon, tous les Chromebooks ne sont pas équipés de clavier rétroéclairé. Si vous en avez un, vous savez que bon, la première fois lorsque vous commencez à utiliser votre Chromebook, vous ne savez pas forcément comment augmenter la luminosité. Bah, en fait, il faut passer par une combinaison de touches qui est normalement Alt combiné à la luminosité de l'écran. Réduction ou augmentation. Moi, par exemple, attendez, si je vous dis pas de bêtises, le rétroéclairage du clavier est désactivé, est activé. Bon, sur le HP Dragonfly Chromebook, je peux uniquement l'activer et le désactiver via un bouton, ok ? Un bouton vraiment dédié, mais je peux pas pour autant le réduire et l'augmenter. Il faut que je passe par cette combinaison de touches dont je vous ai parlé, à savoir luminosité de l'écran. Donc ça, c'est déjà, enfin, lorsque vous achetez un Chromebook, ça peut être effectivement un peu difficile, vous ne savez pas comment le faire, donc bref, c'est pas évident. Eh bien, alléluia, côté Chrome OS Canary, ils se sont dit que c'est peut-être le moment de le faire. Donc si vous activez Enable Keyboard Backlight Control in Setting, eh bien vous allez pouvoir manuellement, eh bien au travers de votre souris, vous avez un slider qui va vous permettre d'augmenter la luminosité là et la réduire. On parle de la luminosité du rétroéclairage du clavier. Comme vous pouvez voir en dessous, ça vous fait apparaître cette barre. Alors évidemment, ça aussi, c'est déjà, je trouve, un peu trop compliqué pour quelqu'un qui débute. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment dans les paramètres pour trouver ça. Moi, pour moi, il faudrait même l'ajouter dans les quick settings, dans les paramètres rapides de Chrome OS pour pouvoir le faire rapidement, comme ce qu'on a effectivement aujourd'hui pour la luminosité. Ça peut être inclus limite dedans. Hein, parce que ça a une certaine cohérence, mais voilà. Enfin, ça, c'était un incontournable. C'est un peu comme le c'était quoi ? C'était le tri alphabétique au niveau du launcher d'application. Hein. On l'a attendu, hein. Et tout comme le calendrier. Le calendrier qui se prépare aussi en théorie à accueillir du multi-calendrier. À voir comment ça va être géré. Alors, on s'approche de la fin de ce live. s'approche de la fin de ce live. Bon, on aura tenu au moins une heure. Alors, fin de ce live, au moins cette première partie d'émission, et ensuite on restera encore quelques minutes ensemble. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu fatigué, parce qu'encore une fois, je suis malade, donc il va falloir que je continue à me soigner. En tout cas, une petite news en vrac comme ça que j'introduis discrètement, ni vu ni connu. Et bien sûr, la chaîne YouTube, j'ai sorti dernièrement une vidéo sur les 7 astuces incontournables sur Chromebook. J'avais commencé à faire, c'est pas la première, du coup c'est la troisième d'une série de vidéos. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, découvrir certaines fonctionnalités, faut pas hésiter à regarder cette vidéo, évidemment à la liker, à la partager, ça vous connaissez la rengaine. Mais globalement, j'en suis à ma troisième vidéo. Vous pourrez, si vous allez dans l'onglet vidéo de ma chaîne, vous allez pouvoir retrouver les autres. Vous faites un CTRL F sur astuces et vous allez découvrir pas mal de choses. Et là-dessus, je pense qu'il y a des astuces un peu innovantes. Et encore une fois, pour les débutants sur Chrome OS, je pense que c'est toujours bienvenu d'avoir ce genre d'infos. Écoutez, je vais clôturer du coup cette première partie de live. Encore une fois, merci d'avoir été là, d'avoir été présent. Vous êtes encore une vingtaine à être connectés alors qu'il est 22h10. Merci encore une fois pour votre présence. Si vous souhaitez m'aider, eh bien, rien de plus simple. Vous likez la vidéo dans laquelle vous êtes, vous abonnez à la chaîne, vous me suivez sur les réseaux sociaux, et ça me fera évidemment, enfin, ce serait un plaisir sans nom. N'hésitez pas encore une fois à mettre des pouce en l'air dans le chat, ou mettre des confettis, des émojis pour créer un peu plus de dynamisme. Autrement, bah voilà, enfin, si vous voulez réécouter cette émission, vous la retrouvez en replay sur la chaîne ou bien au format podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.